qu'il y a quand même pour l'instant qu'il n'y a pas de loi quand même.
Il y
a un texte qui circule, je pense qu'il en est quand même très très loin de la formule qui apparaîtra sur le bureau de l'Assemblée.
Il est déjà largement commenté.
Dans quelques mois, donc il faut être très prudent. Hein. On est vraiment au tout début. Bon, moi je voudrais dire qu'on est sur des phénomènes aussi, donc il faut bien savoir qu'ils sont complexes. Hein, et je me méfie beaucoup dans ce genre de débat des affirmations un petit peu abruptes. Et surtout, je voudrais commencer devant vous par dire qu'on est sur des phénomènes lents. Il n'y a rien de plus... Il n'y a rien de plus dramatique que de vouloir penser que l'école peut bouger vite. L'école bouge au rythme de la biologie. Un enfant, ça met du temps à se faire. Grosso modo, aujourd'hui, la scolarité obligatoire, en tout cas, nos enfants sont à peu près tous scolarisés à 3 ans et ils vont poursuivre jusqu'à 18 ans, en moyenne, même si la partie obligatoire va de 6 à 16. Et c'est au cours de tout ça que va se former un individu. Et quand on regarde les évolutions du système, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont toujours extrêmement lentes. Je dis ça parce que aujourd'hui, effectivement, hier plutôt ou avant-hier, est paru, et Michel Quéré pourra en parler très, très facilement dans la prochaine. De table ronde, les résultats de PIRLS. Bon. PIRLS, c'est une autre évaluation que PISA. Au lieu de se faire à 15 ans, elle se fait non pas à un âge, mais à un niveau de scolarité qui est la quatrième année de l'école obligatoire. Bien. Grosso modo, 9 ans, 9 à 10 ans pour la plupart des enfants.
C'est marrant.
Qui sont dans PIRLS. Bon, ces résultats sont mauvais. Ces résultats sont mauvais, mais nous savions qu'ils seraient mauvais. Je veux dire, tous les spécialistes n'ont eu aucune surprise. Les précédents l'étaient, et il n'y avait aucune raison pour qu'en 3 ans, les choses aient changé à un point tel que le système se soit inversé. Je dis ça parce que, et je dis ça en toute amitié, je vois très bien, aujourd'hui, le ministre peut très facilement dire... Bon, ça, c'est pas moi, c'est mon prédécesseur, mais moi, j'arrive, vous verrez, dans 3 ans, le prochain PIRLS sera meilleur. Pas vrai. Avec toute l'estime, l'admiration, la considération que j'ai pour le ministre actuel, dans 3 ans, PIRLS sera pas meilleur. On est sur des phénomènes qui prennent du temps. Un enfant, les enfants qui seront testés dans le PISA 2021, ils sont rentrés à l'école cette année. Et donc, en admettant qu'on ait vraiment changé l'école dans les années qui viennent, nous saurons, avec une relative certitude, si nous avons vraiment changé les choses, autour de 2021, c'est-à-dire dans plus de 10 ans. Le dernier pays qui a réussi à modifier sensiblement ses performances scolaires en 10 ans, c'est l'Allemagne, et 10 ans, c'est vraiment un minimum. Donc ça, je crois qu'il faut déjà l'avoir, il faut bien avoir ça en tête, ne pas sortir de cette loi en disant « Bon, il y a une loi qui va sortir, elle est géniale, et tous les problèmes sont réglés ». C'est pas vrai. Quelle que soit la qualité de la loi, et c'est pas la loi qui modifiera, c'est ce qui se passe dans les classes, qui modifiera effectivement les performances de nos enfants dans les prochaines décennies. Alors maintenant, il faut réfléchir à pourquoi, en gros, en une décennie, on est passé d'une relative sérénité à une grande angoisse. En gros, et je pense que mes petits camarades qui sont à la tribune ou qui sont dans la salle ne me contrediront pas, jusqu'au début des années 2000, tout va très bien, madame la marquise. Les Français, alors il y a bien toujours quelques polémiques, il y a quelques ouvrages un peu polémiques qui sortent, mais les ouvrages polémiques, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Ils sont généralement pas très bons. J'ai souvent l'habitude de dire que celui qui a écrit La fabrique du crétin a écrit son autobiographie, donc c'est un livre autobiographique. Bon, voilà, donc les ouvrages sérieux, jusqu'à la fin des années 90, sont relativement sereins. La France, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a connu une progression constante de son système éducatif. Il y a bien une parenthèse pompidolienne. Quand on interroge les historiens, ils ont tendance à mettre la période Pompidou en parenthèse, mais que ce soit la quatrième, le général de Gaulle, Giscard d'Estaing, l'arrivée de la gauche, le retour de la droite, on est sur une progression à peu près constante, et avec à mi-chemin, on dirait, aux années 80, le fameux slogan des 80% d'une génération au niveau du bac, et il semble apparemment, au début des années 90, qu'on y va sereinement. Il se trouve qu'on n'y est pas allé sereinement, qu'on n'y est d'ailleurs toujours pas, et puis quand même, d'un seul coup, le discours change. Le discours change au tout début de l'année 2000. Moi, j'étais directeur de cabinet d'un ministre, citons-le, Jacques Lang. Vous connaissez tous Jacques Lang. Jacques Lang, dans son parler, dans sa façon de s'exprimer, disait au début de l'année 2000 « Nous avons la meilleure école du monde ». J'étais de ceux qui lui disaient « Monsieur le ministre, pas sûr, hein, pas sûr ». Mais nous n'étions pas catastrophiques. Puis d'un seul coup, on se dit, on s'aperçoit que la machine déraille. Alors la machine déraille, elle déraille d'ailleurs, à mon avis, depuis longtemps. Là aussi bien les évolutions positives sont lentes, les évolutions négatives sont aussi lentes. C'est-à-dire que ça ne s'est pas mis à dérailler un beau jour. Ça a commencé à dérailler, on en parlait tout à l'heure dans une autre réunion avec Jean-Paul Delahaye, on disait il y a bien une bonne vingtaine d'années que le système a commencé à dériver négativement. Alors, c'est vrai que PISA nous a aidés à comprendre que ça n'allait pas. Alors, PISA, tout à l'heure, on a dit, c'est la référence incontestable. Non, c'est pas la référence incontestable. D'abord, nous, on a commencé par la contester. Et aujourd'hui encore, je le dis ça d'autant plus facilement que je pense être, parmi les responsables de l'éducation, c'est éducatif, celui qui a fait bouger les choses en 2004, quand, à la tête du Haut Conseil d'évaluation d'école, j'ai dit, on arrête de critiquer PISA. On n'arrête pas, on critique PISA, parce que PISA est critiquable, mais on prend en compte ce qu'il nous dit. Et si on trouve que PISA est critiquable, plutôt que de jouer la chaise vide, on va dedans et on fait bouger si on considère que les modes d'évaluation ne nous conviennent pas, on les fait bouger. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, ne pas tenir en compte de PISA. Mais il a fallu attendre 2004. Et à contrario, aujourd'hui encore, même dans les pays qui sont en tête, que ce soit le Japon ou la Corée, il y a des gens qui contestent PISA. Et quand on voit que la Corée sort en tête, je vais vous quitter tout à l'heure pour aller à l'ambassade de Corée, justement, parce que on a bien discuté avec les Coréens de ce sujet-là. Je vous assure, pour connaître un peu maintenant le système coréen, je n'ai aucune envie d'appliquer le système coréen dans mon pays. Et en tout cas, je sais que c'est même pas possible. Donc la recherche systématique de la performance dans PISA doit être quand même analysée avec beaucoup de précautions. Mais c'est vrai que PISA nous a aidé à prendre conscience que quelque chose n'allait pas. Alors le problème, et là je sais que à la tribune il y a quelqu'un qui à la limite beaucoup plus performant que moi sur ce sujet-là, c'est Nathalie qui analyse les choses plus finement, mais je pense qu'elle sera d'accord avec moi pour dire il s'agit pas d'aller chercher de gagner une place ou deux places, savoir si on est 25e, 22e, ou 30e n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir dans quel groupe on se situe. En gros, il y a 4-5 groupes. Il y a un groupe de pays pas très nombreux, mais qui j'ai employé un vocabulaire un peu jeune, qui cartonne. Alors, l'Asie, le Japon, la Corée, une partie de l'Europe du Nord, pas toute l'Europe du Nord, contrairement à ce qu'on nous raconte. Il y a la Finlande, oui, c'est vrai, la Finlande. Quand on regarde la Norvège a des performances qui ne sont pas très éloignées de la France. La Suède, c'est très aléatoire. Il y a un pays dont on ne parle jamais qui, lui, a des performances quasiment équivalentes aux performances de asiatiques, c'est le Canada. Alors qu'il n'y a pas de ministre canadien d'éducation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système canadien d'éducation, il y a des systèmes provinciaux qui sont d'ailleurs très proches les uns des autres, mais qui ne sont pas rigoureusement identiques. Et il se trouve que le Canada a des performances qui sont très différentes des performances de son voisin, les États-Unis. Donc ça, c'est le deuxième pays. Puis il y a aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Bon, nous, avant, il y a une dizaine d'années, on était dans le deuxième groupe, dans le groupe, on va dire, des moyens supérieurs. Et maintenant, il faut bien reconnaître que le dernier PISA nous met plutôt dans le groupe en dessous de la moyenne, quoi, à la moyenne ou en dessous de la moyenne. Donc, et surtout, ce qui est intéressant, ce qu'on ne peut pas nier et qui doit nous alerter, c'est la dérive, la dérivée. Alors, pas, encore une fois, pas tellement la dérivée sur le classement, la dérivée sur les indicateurs. Moi, il y a quelque chose que je cite toujours dans ce genre de conférence, ce qui m'a le plus interpellé dans le dernier PISA, c'est le. Alors, le dernier PISA avait. Je m'excuse de rentrer un peu dans les détails, mais PISA, on teste la maîtrise écrite de la langue maternelle, la maîtrise du calcul et la maîtrise de la culture scientifique. Et à chaque test PISA, donc tous les 3 ans, il y a une dominante et une majeure et 2 mineures. En 2000, la majeure, c'était la maîtrise de la langue, les 2 mineures, c'était les mathématiques et la culture scientifique. Ça a tourné en 2003 et en 2006. Et en 2009, on est revenu à majeure, la lecture, et mineure. Bon. Donc, on peut comparer. Il est intéressant de comparer 2009 et 2000. On a là deux choses qui sont comparables. 2000, nous avons 15% de mauvais lecteurs. 2000, nous avons 15% de mauvais lecteurs. 2009, nous avons 20% de mauvais lecteurs. Au passage, je ne résiste pas au plaisir de faire un mot, c'est là où on voit que le niveau baisse, puisque l'OCDE nous dit que ça fait 5% de plus. Non, ça fait 33% de plus. Je suis désolé. Quand on passe de 15% à 20%, on augmente de 33% dans une génération des mauvais lecteurs. Donc l'OCDE, là, zéro pointé. Bon. Et donc un système qui, en 9 ans, fabrique 33% de plus de mauvais lecteurs est un système qui est obligé de s'interroger. Ce n'est pas de savoir si nous sommes 25e ou 22e. Nous avons un système qui a fabriqué un tiers de mauvais lecteurs de plus en 9 ans. Et c'est corroboré par le Pearl qui est sorti avant-hier. Et d'ailleurs, alors là, je sais bien, je vais faire hurler les scientifiques parce que je vais faire un mix entre Pearl et PISA. PISA, on teste à 15 ans. Pearl, on teste à 9-10 ans. Mais les tests sont différents. Oui, je vois Michel d'ailleurs qui commence à s'exciter au fond de la salle. Il dit il ne va pas le faire. Si, je vais le faire. Et je vais le faire. Dire que Pearls, quand même, nous indique ce qui se passe à la fin de l'école primaire. PISA prend en compte l'école primaire et le collège. Dans les premiers PISA, et tout à l'heure, il me semble avoir entendu une petite musique, il y a encore une petite musique dans le pays qui considère que M. Abi, là, il nous a pas rendu service avec le collège. Hein. Et c'est le collège de maillon faible. C'est pas vrai. Pearl se nous montre que ça se passe avant. Hein. Et c'est intéressant de regarder en 2000. Pearl, c'est PISA pour la France et l'Allemagne. L'Allemagne est devant PISA, est devant la France dans Pearl en 2000 et derrière dans PISA. C'est normal, puisque les spécialistes savent très bien que le maillon faible allemand, c'est bien le collège. Alors que notre maillon faible à nous, contrairement à ce que nous avons cru pendant longtemps, c'est notre école primaire. Et que le collège, alors le collège, on peut lui reprocher aujourd'hui de ne pas corriger ce que je dirais ce qu'a fait l'école primaire. Mais il rajoute très très peu d'échecs sur l'échec. L'échec scolaire lourd, ce que j'appelle l'échec scolaire lourd, en gros, la sortie sans diplôme, elle est construite, je dirais, déconstruite essentiellement au cours des premières années de l'école primaire. Et là aussi, ça a été, et je vais m'arrêter, je dirais, un petit peu la révélation des années 2000. Alors, c'est compliqué à expliquer parce qu'on est sur des sujets qui sont extrêmement techniques. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, et je vois bien, j'écoutais encore tout à l'heure à la tribune Vincent Peillon, Michel qui était avec moi, les ministres, ils ont du mal avec ces concepts de qualification. Il faut savoir que dans la loi de Jospin de 89, on avait écrit qu'il fallait réduire les sorties sans qualification. Ça paraissait normal. Tout le monde trouvait ça normal. Et on a réduit les sorties sans qualification. Contrairement à ce qu'on vous dit, les sorties sans qualification, si on prend la définition d'une qualification telle qu'il faut la prendre, c'est autour de 5 à 6% d'une génération. C'est pas dramatique. Sauf qu'on a un système de qualification à la française, qui n'est pas d'ailleurs un produit de l'éducation nationale, mais qui est un produit des partenaires sociaux au cours du 7e plan, je crois, qui déconnecte qualification de diplôme sur tout ce qui se passe jusqu'au niveau bac. C'est-à-dire qu'on peut être qualifié avec un niveau CAP ou avec un niveau bac sans avoir le CAP ou sans avoir le baccalauréat. Quand ces définitions ont été mises en place, c'était l'époque des Trente Glorieuses, c'était l'époque où la France avait 2% de chômeurs, ça faisait sens. C'est-à-dire l'époque où les diplômes techniques se passaient en deux ou trois parties et il y avait un grand nombre d'enfants ou de jeunes qui avaient la partie pratique. Hein, ils savaient être maçon ou chaudronnier, ils n'avaient pas la partie théorique. Alors ce que je veux simplement dire, c'est qu'on s'est aperçu que les qualifications sans diplôme, ce n'étaient pas des qualifications. Et donc le bon indicateur, c'est la sortie sans diplôme. Et la sortie sans diplôme, c'est plus 5%, 6%, c'est 20% d'une génération.